VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du vendredi 22 février 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation, voici les titres.
Les Nigérians votent demain, la campagne électorale a pris fin hier soir.
Au Sénégal, la présidentielle c'est dimanche avec les derniers meetings de clôture aujourd'hui à Dakar.
Des bêtes foules, des incantations politiques, mais on n'a pas pris le temps véritablement de discuter avec les populations des programmes.
En République démocratique du Congo, les autorités annoncent la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa.
À la frontière entre le Venezuela et la Colombie, l'aide humanitaire américaine est toujours bloquée. Moscou et Beijing dénoncent le forcing des États-Unis.
Le FESPACO, la fête du cinéma africain, démarre demain au Burkina Faso. Et ici aux États-Unis, Hollywood se prépare pour la cérémonie des Oscars dimanche.
L'économie du Togo sur la bonne voie, on verra ça dans la Minute Éco.
Et les championnats de foot reprennent ce week-end au Gabon dans la page sport.
Mais tout de suite, le journal.
Les Nigérians sont appelés aux urnes demain dans des élections générales. Le report d'une semaine du scrutin a attisé des tensions entre le président sortant Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Près de 84 millions d'électeurs sont rappelés aux urnes après le report du scrutin, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote samedi dernier. Les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat doivent être renouvelés. Un nombre record de 23 000 candidats se sont présentés aux différents scrutins, mais le véritable duel se déroule entre le président Buhari et Atiku Abubakar qui se dispute la magistrature suprême. Mahmoud Yakubu, président de la commission électorale indépendante, a rejeté toute accusation d'interférence politique avec l'un ou l'autre parti qui s'accusent mutuellement de saboter le scrutin. Il a assuré ne pas envisager de nouveaux reports. Celui de samedi dernier a exacerbé les tensions entre les deux camps. Le président Buhari a exhorté l'armée à être sans pitié avec les fraudeurs. De son côté, le PDP, parti d'Atiku Abubakar, a accusé le chef de l'État de préparer des fraudes pour se faire réélire. Hier, deux personnes ont été tuées et 36 véhicules brûlés dans le nord, dans des violences entre partisans du pouvoir et ceux de l'opposition.
Au Sénégal, la campagne électorale pour l'élection présidentielle prend la fin ce soir à minuit. Tous les 5 candidats ont choisi Dakar, pour la capitale, pour boucler leurs activités avant le vote de dimanche. Le point avec Seydina Abagay.
Pour la première fois, les 5 candidats se retrouvent dans une même localité. Ils ont tous choisi la capitale pour ce dernier jour de campagne. Le président sortant Macky Sall effectue des tournées dans les quartiers populaires de Dakar avant de finir dans l'après-midi par un meeting national de clôture qui est prévu au stade Léopold Sédar Senghor qui compte plus de 60 000 places. Le candidat maître Modi Kenya effectue des visites de proximité auprès des habitants des banlieues qui se trouvent à la sortie de la capitale Dakar. Son meeting de clôture se tient à Pékin au stade Alassane Djigo qui compte environ 10 000 places. Le candidat Ousmane Sonko a lui aussi choisi la banlieue de Dakar, plus précisément Guédiawaye, pour une caravane suivie d'un meeting de clôture. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, Issa Sall, a choisi les allées du centenaire de Dakar pour terminer sa campagne électorale. Enfin, le candidat Idrissa Seck fera un déplacement périlleux. Celui qui est considéré comme le challenger le plus sérieux quitte Kédougou à plus de 700 km au sud-est du pays pour rallier Dakar dans la soirée. Une fois la campagne terminée, les Sénégalais auront une journée de répit avant de se diriger vers les urnes ce dimanche 24 février 2019 pour choisir leur président. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, une grève des infirmiers ralentit la riposte contre Ebola. 3 jours après l'assassinat de l'infirmier en chef d'un village de l'est du pays, des assaillants armés d'arcs et de flèches ont enlevé mardi l'infirmier titulaire du centre de santé du village de Vuovi et son épouse. Ils l'ont conduit dans la brousse puis l'ont tué devant son épouse, a déclaré Paluku Sinkubili, chef de la localité de Bachou près de Butembo.
Vers la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et l'Union européenne, le gouvernement congolais et une délégation de l'UE ont signé ce vendredi à Kinshasa un accord sur la reprise des activités de la maison Schengen fermée sous le régime de Joseph Kabila. Un accord salué par la classe politique congolaise et le gouvernement de Belgique. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il a fallu attendre 13 mois et l'avènement à la tête de la RDC d'un nouveau président de la République pour que soit réouverte la maison Schengen, dispositif d'octroi de visa Schengen à Kinshasa. L'accord conclu prévoit que l'ambassade de Belgique ouvre en son sein un guichet spécial de traitement dédié aux officiels congolais détenteurs de passeports diplomatiques et que la RDC rétablisse l'immunité diplomatique de la maison Schengen qui réouvrira sous un autre label. La partie belge s'engage également à la reprise des activités consulaires relatives à la réception des demandes des visas Schengen. L'accord conclu prévoit aussi la reprise de la fréquence hebdomadaire des vols de la compagnie aérienne belge SN Bruxelles qui passe de 4 à 7. Réaction de satisfaction de quelques acteurs politiques et de la société civile de la RDC. Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, salue également cet accord qui, selon lui, je cite, est un premier pas positif pour reprendre les échanges entre l'Union européenne et la RDC au bénéfice de la population congolaise qui attend le changement et l'ouverture. Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Algérie, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans le centre d'Alger contre le cinquième mandat que brigue le président Abdelaziz Bouteflika. Toute manifestation est officiellement interdite depuis 2001 dans la capitale algérienne. La presse algérienne a également fait état de protestations d'ampleur variable à Oran, deuxième ville du pays, à Tiaret et Rélizane et à Sétif au sud-est d'Alger.
Au Mali, les militaires français de l'opération Barkhane ont tué l'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, l'Algérien Jamel Okacha, alias Yahya Abou El Hammam, selon la ministre des Armées Florence Parly.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ont exigé la libération immédiate du dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université de Côte d'Ivoire, Johnson Zamina Kwasi. Il est écroué depuis mardi pour trouble à l'ordre public. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
Israël a ouvert ce vendredi sa première ambassade au Rwanda, offrant son soutien à ce pays dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, ainsi que des technologies des communications, dont la cybersécurité.
Au Mozambique, une personne a été tuée, 6 blessés jeudi dans le nord du pays au cours de 2 attaques contre le groupe pétrolier américain Anadarko. Elles ont été attribuées au groupe djihadiste armé, selon un nouveau bilan de la compagnie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie élève la voix contre la distribution de l'aide humanitaire américaine au Venezuela. Moscou accuse Washington de s'en servir comme prétexte pour une action militaire visant à renverser le pouvoir du président Maduro, allié de Moscou. Les précisions de John Lyndon.
Une provocation dangereuse, inspirée et dirigée par Washington, à savoir la traversée de la frontière vénézuélienne par le prétendu convoi humanitaire, est prévue le 23 février, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Sakharova. Cela crée un prétexte commode pour une action militaire pour écarter du pouvoir l'actuel président légitime du pays, a-t-elle estimé, répétant les accusations déjà formulées par Moscou selon lesquelles Washington aurait décidé d'organiser un coup d'État. La Russie a déjà envoyé cette semaine au Venezuela de l'aide humanitaire, comprenant notamment des médicaments et de l'équipement médical, a rappelé la porte-parole de la diplomatie russe. La Chine aussi s'est dit opposée à une entrée en force de l'aide américaine au Venezuela, soulignant qu'elle pouvait déclencher un conflit. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a ordonné jeudi la fermeture de la frontière terrestre avec le Brésil, et menacé de fermer celle avec la Colombie pour empêcher l'entrée de l'aide américaine qu'il considère comme une provocation. Pour sa part, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim et a été reconnu par une cinquantaine de pays, a affirmé que l'aide américaine entrerait au Venezuela quoi qu'il arrive.
Le navire humanitaire Sea-Watch 3, bloqué il y a 3 semaines dans le port de Catane en Sicile, a été autorisé ce vendredi à partir. Le Sea-Watch 3, qui bat pavillon des Pays-Bas, était arrivé le 31 janvier à Catane avec 47 migrants à bord, secourus au large de la Libye.
La justice russe a prolongé ce vendredi le placement en détention provisoire de l'Américain Paul Whelan, arrêté fin décembre et accusé d'espionnage. L'ambassade des États-Unis à Moscou a indiqué sur Twitter suivre attentivement l'affaire, ajoutant qu'un de ses représentants avait rendu visite hier à Paul Whelan en prison et elle a accusé les autorités russes de gêner le travail consulaire en sa faveur.
La tension monte entre Islamabad et New Delhi. L'armée pakistanaise a averti l'Inde qu'elle n'était pas prête à répondre à la moindre agression. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec l'Inde, mais si l'Inde se livre à la moindre agression, elle ne pourra pas nous surprendre, a mis en garde le porte-parole de l'armée.
Une quarantaine de camions transportant des hommes, mais surtout des femmes et des enfants, ont quitté ce vendredi l'ultime territoire du groupe État islamique dans l'Est syrien. Le départ de ce convoi s'est fait sous la supervision des combattants des forces démocratiques syriennes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Cette année, l'économie du Togo devrait renouer avec une croissance plus vigoureuse. Après le ralentissement causé par la crise sociopolitique et l'ajustement budgétaire sévère convenu avec le Fonds monétaire international, l'activité économique peut croître de 5% selon la BAD. La reprise sera portée par le secteur agricole, le secteur énergétique résolument tourné vers les énergies renouvelables et une forte mobilisation des recettes fiscales. La nouvelle quasi-monnaie introduite par le Zimbabwe pour tenter de desserrer l'étau financier qui étrangle son économie a commencé à s'échanger ce vendredi. Le taux d'ouverture a été fixé à 2,5 $ RTGS zimbabwéens pour un dollar américain en accord avec les vendeurs de devises. Des institutions bancaires comme EcoBank ont acheté ces billets verts au taux de 2,439 $ RTGS et les ont revendus à 2,5625. Pour finir, Zenith Bank Nigeria a enregistré une hausse de 16,2% de son bénéfice avant impôt à 231,7 milliards de naira en 2018. La banque a aussi annoncé que son euro-obligation de 500 millions de dollars arriverait à échéance en avril. Elle prévoit de rembourser l'obligation à partir de sa trésorerie et n'a pas besoin de s'appuyer à nouveau sur le marché.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Les championnats reprennent ce week-end au Gabon.
Oui, c'est une reprise attendue après 8 mois d'arrêt dû au manque d'investissement, les détournements présumés, les stades vides et bien d'autres problèmes. Un championnat en 4 poules sur 2 mois, c'est le programme annoncé du Gabon Oil National Foot 2018-2019, la nouvelle formule du championnat de football. Les joueurs n'ont plus entendu de coups de sifflet officiel depuis juin 2018. Les stades construits en grande pompe pour la CAN 2017 sont laissés à l'abandon et l'équipe nationale enchaîne les scandales. Le dernier en date concerne l'entraîneur des Panthers, Daniel Cousin. Embauché par intérim en septembre, il affirme ne toujours pas avoir signé de contrat ni touché de salaire.
Bertrand Traoré au cœur de lourdes sanctions de la FIFA contre Chelsea.
Oui, Chelsea a été interdit de recrutement pour les 2 prochains mercato, soit jusqu'à fin janvier 2020, pour avoir enfreint les règles en matière de transfert international de joueurs mineurs. Parmi les 29 joueurs dont le recrutement n'a pas suivi les règles, Bertrand Traoré, le Burkinabé aujourd'hui à Lyon, avait été recruté en 2013 par les Blues. Il a officiellement signé à sa majorité à Chelsea, mais aurait en réalité joué plus tôt avec le club londonien alors qu'il était encore mineur. Les Blues écopent aussi d'une amende de 530 000 € et devront régulariser la situation des joueurs mineurs concernés dans les 90 jours. La fédération anglaise est quant à elle sanctionnée d'une amende de 450 000 €.
Arsenal et Chelsea épargnés en Europa League.
Oui, le tirage au sort des 8e de finale a eu lieu aujourd'hui et a réservé des affiches plutôt déséquilibrées. Arsenal accueillera Rennes, tombeur du Betis Séville en 16e le 7 mars avant de se déplacer en Bretagne une semaine plus tard. L'autre club de Londres, Chelsea, fera face au Dynamo Kiev. L'Inter Milan se déplacera à l'aller sur le terrain de Francfort. Naples défiera le Red Bull Salzbourg, demi-finaliste en 2018. Le FC Séville jouera le club russe de Krasnodar et Valence fera face à Slavia Prague. Enfin, le Dynamo Zagreb affrontera le Benfica à Lisbonne et le Zénith Saint-Pétersbourg recevra Villarreal.
Et pour finir, un mot de transfert, la meilleure footballeuse africaine de l'année file en Chine.
Et oui, Tembin Gatlana a quitté le club américain Houston Dash pour rejoindre le Beijing Phoenix FC de Beijing. L'attaquante sud-africaine a signé un contrat d'une saison avec le club de la Super League chinoise. Elle va rejoindre le groupe après le tournoi auquel participe la sélection sud-africaine en Chypre dans le cadre des préparatifs pour le Mondial 2019 qui aura lieu en France.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Au Sénégal, la campagne électorale prend fin ce vendredi. Les candidats ont battu campagne pendant 3 semaines pour la présidentielle du dimanche. Mais que retenir de cette campagne pour des éléments de réponse? Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué, s'est entretenu avec l'écrivain et analyste politique Amidou Anne, ainsi qu'avec le journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall. Suivons son reportage.
Les 5 candidats ont tous proposé des programmes, mais face aux populations, ils n'ont pas toujours pris le soin d'aller au fond des choses. C'est du moins l'avis du journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall.
Sur les programmes, sur les offres programmatiques, sur les projets de société, malheureusement, à quelques exceptions près, on a perpétué ce qui se faisait jusque-là, c'est-à-dire aller se donner des bains de foule, des incantations politiques, mais on n'a pas pris le temps véritablement de discuter avec les populations des programme, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est réalisable.
Cependant, l'analyste politique Amidou Anne affirme que chacun a pu faire avec ses atouts pour essayer de convaincre l'électorat sénégalais.
D'abord, le candidat sortant Macky Sall, je pense qu'il a un bon bilan économique, même si il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas durant son premier septennat, notamment sur la question des libertés publiques, sur la question de l'approfondissement de la démocratie et sur aussi la question de l'implication de la famille dans les affaires de l'État. Il fait campagne en partant de ce bilan-là, qui est quand même à bien des égards positif, notamment en termes d'infrastructure, en termes de politique sociale et aussi en termes de calme institutionnel par rapport aux deux mandats d'Abdoulaye Wade.
Passons maintenant à Idrissa Seck, qui est considéré comme le challenger le plus expérimenté.
Je pense qu'il a le meilleur programme en termes de travail scientifique, en termes de travail de rigueur, en termes aussi d'implication de techniciens et d'experts du Sénégal et de la diaspora. Et c'est quelqu'un qui en est donc à sa 3e candidature et pour moi qui est l'un des favoris avec les candidats sortants.
Et qu'est-ce que vous retenez de la campagne du candidat Ousmane Sonko?
Ousmane Sonko a un discours intéressant, notamment sur la mise sur la place publique des questions liées à la souveraineté, les questions liées à la nation, à la patrie, les questions aussi liées au modèle économique endogène. C'est un discours populo-nationaliste, mais qui trouve quand même quelque part des adhérents et des tenants, des militants aussi au sein de la jeunesse. Et c'est important que ces questions soit adressée sans verser bien entendu dans la xénophobie ou dans l'indexation de l'autre comme acteur de notre malheur.
S'agissant du professeur Issa Sall maintenant.
Issa Sall est un candidat qui a un lien ambigu avec la religion, il faut le dire clairement, parce que son parti est quelque part l'émanation du mouvement religieux des Moustachidines. Mais c'est un candidat anti-système, un peu à l'instar de Sonko, mais qui fait preuve d'une maturité, d'une exigence de rigueur aussi dans la déclinaison de ses ambitions, mais aussi dans ses critiques vis-à-vis du président sortant.
Et enfin, le candidat Madi Kenya, pour terminer, on a vu qu'il a accumulé beaucoup de sympathie venant des Sénégalais durant cette campagne électorale.
C'est quelqu'un que les Sénégalais découvrent, quelqu'un qui était dans la galaxie d'Abdoulaye Wade pendant 12 ans avant de s'en détacher récemment suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade. C'est quelqu'un qui incarne le PDS, qui n'a jamais raté une élection depuis 1974. Et c'est un homme courtois, élégant, mais bon, dont on tarde quand même à voir les propositions concrètes, le projet de société pour le peuple sénégalais.
Après avoir suivi et écoutez, les offres des 5 candidats à la présidentielle, les Sénégalais vont porter leur choix sur celui qui les aura convaincus pour présider à leur destinée pour les 5 prochaines années. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Édition spéciale sur l'élection présidentielle au Sénégal. Ce dimanche 24 février 2019 sur VOA Afrique. Retrouvez la rédaction ici à Washington et nos correspondants et notre envoyé spécial à Dakar pour la couverture de ce scrutin. Macky Sall face à 4 opposants, reportage et analyse, c'est ce dimanche 24 février 2019 à 16h et 21h en temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Côte d'Ivoire, le bras de fer se poursuit entre les enseignants et le gouvernement. Depuis plus d'un mois, les enseignants sont en grève. La principale université du pays ainsi que les écoles publiques du primaire et du secondaire sont paralysées et les enseignants menacent de durcir le ton. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Depuis un peu plus d'un mois, l'école ivoirienne est paralysée. Dans le supérieur, les enseignants de la principale université du pays, l'université Félix Houphouët-Boigny, sont en grève. Ils demandent entre autres le paiement de primes de travail, le départ d'Aboubacar Amoko, le président de l'université, ainsi que la levée des sanctions disciplinaires qui frappent 11 de leurs camarades. L'arrestation et l'incarcération mardi de deux leaders syndicaux, dont Johnson Kwasi Zamina, le secrétaire général de la CENEC, la Coordination nationale des enseignants et enseignants-chercheurs, est venue compliquer une situation déjà tendue. Théodore Nyanyazadi est le secrétaire général de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. Il dénonce ces arrestations.
Notre réaction, c'est une réaction de colère, d'indignation. En arrêtant Johnson et en l'embastillant, c'est la liberté syndicale qui est ainsi embastillée en Côte d'Ivoire. Et c'est très grave pour l'image de notre pays.
Théodore Nyanyazadi met en garde le gouvernement. La trêve sociale, dit-il, est aujourd'hui menacée.
Elle est menacée, elle est mise à mal, elle battait déjà de l'aile. Et c'est la plateforme nationale qui la protégeait par le respect ferme de sa signature envers et contre tous. Et en mettant un syndicaliste en prison, je pense que l'État lui-même a donné un coup de bouteau à cette trêve-là. Il nous faut nous retrouver rapidement pour renégocier, pour rediscuter.
Jeudi, une cinquantaine d'enseignants ont battu le pavé pour crier leur indignation et réclamer la libération des enseignants arrêtés. Les écoles primaires et secondaires publiques sont également en crise. Dans le cahier de revendication des enseignants figure la revalorisation de leur indemnité de logement, la suppression des cours du mercredi aux primaires et le relèvement des primes de correction aux examens. Des discussions ont lieu depuis lundi et la ministre de l'Éducation nationale espère une reprise des cours dès le début de la semaine prochaine. Kandia Camara.
Nous demandons la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif, à commencer par les formateurs, nos collègues enseignants, à qui nous lançons solennellement un appel pour la reprise des cours le lundi 25 février. Nous devons donner toutes les chances à nos enfants de bénéficier d'une formation de qualité pour que ces jeunes que nous allons mettre à la disposition de notre pays soient une jeunesse compétente.
Quant aux parents d'élèves, ils ne cachent plus leur exaspération face à ces grèves.
La grève, c'est dans la loi. Quand quelqu'un grève, il faut l'appeler pour pouvoir négocier. On ne l'apprisonne pas. Nous, les parents, nous sommes écœurés. Qu'est-ce qui ne va pas? L'État ne nous dit rien, eux aussi ne nous disent rien.
On a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont à la maison, alors qu'ils sont appelés à être les cadres de demain, sans formation, pas de qualification et pas d'emploi.
Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La 26e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'ouvre demain dans la capitale burkinabé. Tout est fin prêt pour, selon les organisateurs, à accueillir le festival qui célèbre ses 50 ans. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Dans quelques heures, la Biennale du cinéma africain s'ouvre à Ouagadougou. La capitale burkinabé accueille chaque jour depuis des semaines de nombreux festivaliers. Le cinquantenaire du festival, un moment historique que beaucoup ne veulent rater.
Moi, je suis venu au FESPACO en 85.
Aïké Tayara est comédienne.
50 ans, c'est vraiment de l'âge. Le FESPACO a pris de l'âge. Il y a eu un grand changement. Et c'est en 87 qu'il y a eu le FESPACO. Et mon premier film a eu les talons du Nyerenga. Ça, c'était le film Sarawinia de Mel Ondo. J'étais l'actrice principale. J'étais jeune à l'époque, j'avais 30 ans.
Et en 50 ans, le festival a acquis une certaine notoriété sur le continent.
Quoi qu'on dise, en fait, tout réalisateur, tout producteur africain, quand il sort un film, la première des choses, c'est penser au FESPACO.
Adama Rwamba, réalisateur et producteur du Burkina Faso.
C'est en même temps un carrefour. Pendant tout le temps du FESPACO, tu as l'impression que tout le monde, en fait, cinématographique, qui s'intéresse à la cinématographie africaine, ils sont tous présents. Donc, c'est dit que c'est déjà quelque chose, en fait, d'important. Les beaux films, en fait, qui passent par le FESPACO ont une carrière internationale. C'est une grande référence parce qu'en Afrique, je ne vois pas un festival qui peut drainer des milliers de personnes, en fait, en une semaine. Donc, quoi qu'on dise, en fait, on peut tout dire du FESPACO, mais c'est un FESPACO qui fédère.
La fête du cinéma africain s'annonce belle. Les organisateurs disent être prêts. Yacouba Traoré, président du comité d'organisation.
Nous, on est prêts. On a le dernier filage. Les personnalités sont déjà arrivées, les personnalités que nous attendions. On ne reste pas quoi, il faut compter 100 000 personnes. Déjà, à ceux qui participent au niveau de Ouaga, à ceux qui viennent de l'intérieur du pays, à ceux qui viennent du continent, à ceux qui viennent d'autres continents, et à ceux qui viennent de la diaspora. Le festival comprend normalement 100 000 personnes. 2 heures de spectacle. Extérieur jour, extérieur nuit. Du sens, rien que du sens. Nous voulons donner du sens. Nous ne voulons pas d'une méga star qui vienne chanter en plein milieu du spectacle et sa chanson n'a rien à voir avec le cinéma. Nous voulons raconter une histoire.
Le festival se tient dans un contexte sécuritaire difficile que traverse le pays. Mais les organisateurs rassurent que tout est mis en œuvre pour que les choses se passent bien. De gros dispositifs sécuritaires sont pris. Des cordons sécuritaires sont dressés dans les grands lieux de manifestation, tels par exemple le siège même du FESPACO. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la charge virale qui est indétectable chez certaines personnes vivant avec l'OVH-SIDA.
Parce qu'elles observent et adhèrent bien au traitement, ces personnes ont des virus en très faible quantité dans leur corps. Elles sont moins susceptibles de contaminer leur partenaire.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Richard Mukendi, médecin en RDC. Il nous dira comment avoir et maintenir une charge virale indétectable.
Nous écouterons aussi le témoignage de Christophe, un homme qui a une charge virale faible. Il nous racontera son expérience.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
La 91e cérémonie de remise des prix de l'Academy of Motion Pictures aura lieu dimanche au Dolby Theatre à Hollywood. Los Angeles se prépare donc pour les Oscars et de nombreux films populaires sont nominés. Le point avec Lionel Gaïma.
Le tapis rouge emblématique est déroulé. Plusieurs routes sont fermées. Presque tous les magasins affichent le thème des Oscars. Hollywood apporte les dernières touches avant la grande nuit des célébrités, des robes et glamour. Le cinéma doit faire son cinéma. Le tapis rouge s'étend sur plus de 300 mètres de Hollywood Boulevard au théâtre Dolby où va se dérouler la fête du cinéma, retransmise en direct et suivie par des millions de personnes. Pour beaucoup d'amateurs, la semaine de préparation est la partie la plus excitante. Vivian Robinson, super fan des Oscars, vient à Hollywood depuis 10 ans.
Chaque année, j'ajoute des épingles et des patchs et passe beaucoup de temps à les regarder avant les Oscars. Cette année, je cherche Bohemian Rhapsody et je veux que Rami Malek gagne le meilleur acteur.
Un groupe d'amis datant du lycée a planifié le voyage à Los Angeles rien que pour assister aux préparatifs. Sylvia Valenzuela vient de Huntington Beach.
Nous sommes de grandes fans de l'Academy Awards. Nous allons organiser une soirée dans laquelle nous nous retrouvons entièrement parés de nos bijoux factices et de nos robes longues.
Selon un rapport publié par le bureau du maire, les Oscars rapportent plus de 200 millions de dollars à l'économie ici à Los Angeles. Henry McLeese, un vendeur à Hollywood.
Nous venons de préparer une série de sandwichs pour le petit déjeuner, beaucoup plus que d'habitude. Il y a de l'enthousiasme ici, puisque le tapis rouge est déjà sorti.
Les Oscars attirent des milliers de touristes venus du monde entier et les entreprises locales en profitent. Travis Bird, employé au magasin Hollywood.
Beaucoup de gens viennent ici et les trophées associés aux Oscars se vendent rapidement.
Les billets pour les Oscars ne sont pas vendus au public, mais les heureux gagnants de la loterie du tapis rouge pourront assister à l'arrivée des célébrités sur les gradins. Il n'y aura pas d'hôtes cette année pour animer la soirée des Oscars. C'est la deuxième fois dans la longue histoire de la cérémonie que cela se produit.
Ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console mistienne, à la présentation, Abdourahman Dia et Raissa Girondin.
Et on reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.